On peut être attentif aux arbres, à l'aube qui vient, à un scarabée, à une fleur. La lumière de l'aube est pour moi une vraie médecine, si je ne la pollue pas avec une lumière électrique. Solitude et sentiment. Il est dans le sentiment de solitude quelque chose de l'urgence à bousculer l'ordre établi, pour enfin avoir la place d'imaginer autre chose. Il y a aussi que l'être a oublié qu'il est fait de terre. Il a oublié que la terre a sûrement autant besoin de lui que lui a besoin d'elle, et que cette non-présence à la terre participe au sentiment de solitude, sans que l'être humain ne s'en rende compte. Lui pense qu'il se sent seul, qu'à cause de ça, il doit se trouver une femme. Elle pense qu'elle se sent seule, qu'à cause de ça, elle doit se trouver un homme.
La darbe d'humeur, la zoc le trompeur plus loin. Une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre plein de décoctions d'acide qui vous rongerait les os. Et puis l'inévitable clairière, amie vaste, accueillante. Les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée. Plus haut que les nues. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Des cerises qui rosissaient ou grossissaient lorsque deux doigts s'en emparaient. Et leurs feuilles enveloppantes, la pluie et la rosée, la pluie et la rosée. Toutes ces choses avec lesquelles il était bon d'aller, guidé par une étoile, peut-être celle-là, première à éclairer la nuit, première à éclairer la nuit. Vénus, 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 Vénus. La dard venimeux, la socle trompeur, plus loin, une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre et d'acide, probablement qui vous rongera les os. Et puis, les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Et ces cerises qui grossissaient lorsque la pluie et la rosée. Toutes ces choses guidées par une étoile, guidées par une étoile. Première à éclairer la nuit, première à éclairer la nuit. Vénus. Vénus, Vénus, Vénus. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Et ces cerises qui grossissaient lorsque la pluie et la rosée. Toutes ces choses guidées par une étoile, guidée par une étoile, première à éclairer la nuit. Vénus, 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 Vénus.
Bonjour, alors je suis venue à la radio d'Iwa, et, car ce n'est pas une habitude pour moi, sur l'initiative de Liliane, pour parler d'un sujet qui a beaucoup d'importance et qui est même fondamentale à mes yeux. Ce que je vais dire est issu de mon expérience, mais je pense qu'il peut, ça peut parler à toute personne, car on est tous faits en vérité de la même chair, du même sang et du même esprit. Donc, je me suis aperçue au cours de ma vie que mes relations, autant amicales que sentimentales, étaient émaillées de souffrances. Et forcément, ça pose des difficultés pour vivre. Et je me retrouvais toujours dans l'impossibilité de vivre une relation vraiment apaisée. Exemple, des problèmes de jalousie, même envers les amis, de la frustration qui peut amener de la colère. Et je ne savais pas que faire, sinon accepter cette souffrance, jusqu'à ce que, par le biais de lecture de livres tels que ceux écrits par Krishnamurti, en fait, qui sont plutôt en fait des transcriptions de ses conférences qu'il a fait au travers du monde, et aussi d'autres livres que m'a fait connaître Liliane, de Miguel Ruiz, qui s'appelle La maîtrise de l'amour, et aussi Les quatre accords Toltec. Donc ces livres m'ont permis de voir qu'il y avait peut-être une autre façon de vivre que dans la souffrance, de vivre toujours entre tiraillé entre des moments d'euphorie et des moments de dépression. Oui, il y a aussi beaucoup de discussions entre amis qui m'ont permis d'y voir plus clair et de me comprendre mieux. Et je pense que ce que je vais dire ensuite peut servir à tout le monde et peut-être trouver un écho chez toute personne. Donc, il s'agit de la compréhension qui est une possibilité de vivre autrement en sentant sa respiration, en prenant conscience de son corps et des perceptions du monde qui nous entoure au travers de nos sens. Par exemple, écouter les gens qui parlent autour de nous, écouter les oiseaux qui chantent, voir les feuilles qui volent au gré du vent. Ce sont plein de petites sensations. On est vraiment attentif. Ouais. Eh bien, en fait, ça nous remplit, et de telle sorte qu'on est en plénitude, qu'on est rempli de joie. En fait, et notre esprit devient silencieux, mais ce silence est un plein. Jusqu'alors, je vivais coupé de mon sentir, c'est-à-dire derrière un rideau de pensées. C'est comme toutes ces pensées qui défilent dans notre tête à longueur de journée, c'est comme un mur, en fait. Comme un mur opaque qui nous coupe complètement de nous-mêmes. Nos pensées, ce n'est pas vraiment nous. C'est, il me semble, une mécanique qui nous est commune, qui est le fruit de notre expérience, de notre conditionnement. Voilà, cette pensée, elle a un fonctionnement. Elle analyse les perceptions. Les perceptions partielles du corps par le biais de jugements et de comparaisons. Oui. Vous pouvez l'observer en vous toute la journée, ça n'arrête pas. On compare, on juge, autrui et soi-même. Parce que c'est sa façon d'être à la pensée. Et ça peut être très utile pour inventer quelque chose, pour créer quelque chose. Mais pour les relations, c'est un poison. Parce que je vais l'expliquer pourquoi. Selon moi. Parce que ça nous enferme dans un système de dominant-dominé, de juge et de victime. Où tour à tour, on est le dominant ou le dominé. Le juge ou la victime. Par exemple, je vous donne un exemple. Ah, cette personne, vraiment, qu'est-ce qu'elle est bête. Moi, à sa place, j'aurais fait autrement. J'aurais fait sans doute mieux. Ou, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, je suis vraiment inutile. Tout ça, ce sont des pensées qui ne vont pas vraiment être très utiles pour nous. Si on leur accorde trop d'importance, trop de crédit.
C'est un rideau qui nous empêche de vivre l'ici et maintenant, quoi. Tout ça, tout ce système de juge et de victime, tout ce système, ça nous voile ce qu'on devrait vivre, en fait. Si on était vraiment là, quoi.
Oui, et ça nous apporte beaucoup de souffrance.
Oui, et ça fait énormément souffrir. Et on se ment à soi-même aussi. C'est ça le pire. Mais pour moi, le mensonge, il paralyse le monde. Je l'ai peut-être déjà dit, mais je le redis. C'est comme une paralysie. Ça nous empêche d'avoir les idées claires et ça nous empêche de faire les bons choix. Donc en fait, pour moi, quelque part, on est dans le mensonge parce qu'on n'est pas vraiment là. On vit pas vraiment ce qu'on devrait vivre. On choisit pas vraiment ce qui serait sain et si on était en accord avec le monde et avec ce qui vit, avec le vivant. Ben on choisit pas vraiment comment être acteur dans ce monde en étant en lien avec la vie, quoi, avec les arbres, les plantes, la terre, notre environnement, tout ça. Et à cause de ça, on est dans le mensonge. Et pour moi, on est dans une forme de paralysie. Et ça, je trouve ça triste, vraiment triste.
Par exemple, quand on a des pensées telles que « je ne suis pas assez bien » ou « j'aimerais vraiment vivre avec quelqu'un, ne plus être seul », ce genre de pensée, ça crée beaucoup de frustration. Et cette frustration transforme en un vide intérieur. Et donc, on cherche à combler ce vide. Et tout est bon pour ça. Vous pouvez l'observer autour de vous, vous pouvez l'observer sur vous. Ça peut être le travail, ça peut être la bouffe, la drogue, les relations. Ces relations, par exemple, qu'on peut avoir pour combler le vide. Si on a des images dans nos têtes qui sont créées par nos pensées, ça va fausser ces relations. Je m'explique. Je voudrais vivre avec quelqu'un qui joue de la musique. Moi, parce que je suis musicienne, donc je peux avoir cette image. Donc, je vais chercher à me rapprocher de quelqu'un à tout prix qui joue de la musique. Mais, et du coup, cette image va occulter. Peut-être, si je rencontre quelqu'un qui joue de la musique, d'autres traits de caractère, d'autres choses qui pourtant qui ont leur importance et qui vont faire, si on entame une relation, donc avec peut-être une autre personne qui joue de la musique comme moi, qui vont faire que ça va nous mener droit au mur parce que la personne en fait n'était pas du tout comme moi, mais je l'avais idéalisée parce que je voulais à tout prix que quelqu'un qui corresponde à l'image que je m'étais faite. De ce que, pour moi, était une bonne relation. Par exemple. Et on peut aussi très bien s'entêter à vivre avec quelqu'un qui nous fait beaucoup de tort. Comme ça m'est arrivé. On a peur d'être seul, oui. Et parce qu'on ne veut pas, peut-être pas voir vraiment la personne comme elle est, parce qu'on l'idéalise.
En fait, elle-même, souvent, pour moi, dans cette société, on est tellement tous perdus, quelque part. Mais ça, c'est ma vision, hein, c'est propre à moi. Qu'en fait, pour moi, c'est très difficile de construire. Comme il y a plein de gens qui le font parce que peut-être ils sont mieux que moi dans leur peau, de construire une relation parce que voilà, c'est très très compliqué, quoi. Parce qu'on est tous tellement en manque de quelque chose, on a peur d'être seul de toute façon.
Parce qu'on nourrit des pensées, des pensées où on se dit je suis seul, j'aimerais être avec quelqu'un.
Alors, pour moi, le manque est aussi lié à la colère, parce que je ne suis plus capable de vivre l'ici et maintenant. C'est-à-dire que je ne suis plus capable de vivre mes émotions dans l'instant, en exprimant ce que j'ai à exprimer, ou juste en prenant le temps de vivre l'instant. À cause de ma colère, ou à cause de ma soumission à l'ordre, qui est le rêve des hommes pour la planète, à cause de cette soumission ou à cause de cette incapacité et à cause de cette incapacité à vivre l'ici et maintenant, je ressens un manque. Toujours présent, tant que je ne lâche pas prise, tant que je ne désire pas trouver le calme en acceptant mon désaccord avec ce rêve, le rêve des hommes pour la planète, ou l'ordre établi, quoi. Ah, ça peut être aussi un traumatisme, une blessure vécue dans l'enfance ou même après. Et cette blessure, elle va faire qu'on va se couper de soi-même aussi. Et c'est aussi, ça peut être aussi une cause qui va créer un manque, quoi. Parce qu'après, couper de soi-même, on n'arrive plus à exprimer ce qu'on a à dire, en fait. On n'arrive plus à vivre l'ici et maintenant, parce qu'on ne dit plus. On ne dit plus ce qu'on a à dire, on n'est plus vraiment là.
Même si on entame une relation avec quelqu'un qui puisse paraître bien, bien parti parce qu'on a beaucoup d'affinités avec cette personne, il se peut que la relation soit minée par les pensées qu'on va nourrir tout au fil de cette relation. Quand je dis nourrir, je veux vraiment dire par là qu'on ressasse des pensées.
On fabrique du poison, quoi.
Oui, on fabrique du poison, oui. Qui va distiller ce poison.
On distille du poison. Et voilà, et comme on est un peu magicien, et ben malheureusement, ce poison, et ben il est un peu partout dans la planète, il est un peu partout, quoi. Il fait un peu partie de ce monde, quoi, du monde des hommes.
Et oui, parce voilà. Que la pensée, en fait, elle a une capacité de créer. Mmh. De créer, en fait. Tellement on y croit que ça arrive.
Ouais.
Dans une relation qui est bien partie au début. On passe de moments très, très enivrants, très, très fous. On est soi-même, vraiment, enfin, on s'exprime. Mais après, on va se souvenir de ces moments-là. Et c'est là que va commencer à s'installer le mal-être. Parce qu'on va vouloir que ces moments-là de pure joie se reproduisent. On va vouloir les revoir. Et on va y penser sans arrêt. Et on va se trouver très frustré parce que, bien sûr, ce ne sera jamais pareil, forcément. Et en plus, en pensant à ça, on va se couper de ce qu'il y a de nouveau chaque jour qui pourrait nous apporter de l'émerveillement et de la joie nouvelle. Voilà. Et une des façons, par exemple, de passer à côté de l'autre. Mmh. Et de soi, bien sûr.
Oui.
Ou la jalousie. Oh. La jalousie aussi, c'est quelque chose de vraiment terrible, quoi, que j'ai expérimenté sur moi.
Ben, moi, j'ai beaucoup vécu le manque et tout ça, mais parce que depuis que je suis enfant, et ben, je suis coupée de moi-même, donc en fait, je connais un peu. J'ai vécu avec des gens alcooliques, donc parce qu'ils sont tombés dans l'alcool, justement, bah, parce qu'ils ne voulaient plus vivre l'ici et maintenant, parce que c'est trop dur pour eux. Donc ils voulaient oublier. Et donc de boire, et ben, ils ont l'impression d'oublier en buvant. Donc ça aussi, ça fait partie du manque. Mais il y a beaucoup de choses qui... Pour combler le manque, eh ben, on est capable de se soumettre, on est capable d'être des tyrans, on est capable de plein de choses. Alors que, voilà, que pour moi, c'est pas le bon chemin. Mais bon, faut aussi accepter, voilà, accepter qu'on puisse être en colère, parce qu'il y a de la colère. Donc faut l'accepter aussi, faut pas être dans le déni. Pour être capable d'être attentive à l'ici et maintenant, j'ai aspiré au calme. C'est-à-dire que j'ai désiré vraiment trouver le calme. Même si j'avais cette colère et même si j'avais ce manque tout le temps, enfin très souvent, et ben j'ai quand même, grâce au bouquin, grâce au livre, grâce aux instants aussi d'amour vrai que j'ai vécu avec ma nourrice, avec ma petite sœur, d'autres instants en fait qui est d'amour vrai, c'est-à-dire de plénitude, de sentiments de paix profonde. Grâce à ces instants-là, eh ben, on arrive à accéder au calme, en fait. Et une fois qu'on est accédé au calme, c'est-à-dire qu'on a fait taire le juge et la victime, qu'on a fait taire tout ça en nous, ben, on accepte un peu notre passé, notre colère, sans se laisser posséder ni vampiriser, en fait.
Ce que tu veux dire quand tu dis faire taire le juge ou la victime, ce n'est pas en intimant à la pensée de se taire, mais en fait en y étant attentif et en comprenant profondément, en fait, vraiment avec ses entrailles, avec tout son être, à quel point c'est inutile. À quel point ça n'a pas de sens, ça n'apporte rien de toujours être dans cette dualité, cette rivalité. Un coup on se croit supérieur, un coup on se croit inférieur, et on est toujours comme ça en porte-à-faux, oui, c'est ça, et jamais de paix tant qu'on reste dans ce système-là. Et par exemple, une idée à mon avis qui est fausse, c'est de dire que les gens qui dominent, ils sont beaucoup plus heureux, sereins. En fait, pas du tout à mon avis. Les gens qui dominent, ils sont pareils, ils sont dans la frustration. Ils ont besoin de dominer pour se prouver en fait qu'ils ont de la valeur. Et ils sont toujours dans le doute. Donc il continue à essayer de combler cette incertitude,
ce vide, quoi.
Ce vide. Voilà, comme par exemple certaines personnes qui sont de nos dirigeants ou même des petits tyrans ordinaires, hein, de toutes sortes.
Ouais.
Ou même nous-mêmes à l'occasion.
Oui, oui. C'est très facile de tomber... dans ce que j'appelle, moi, la tyrannie ordinaire, quoi. C'est tellement facile de tomber là-dedans.
Et ben, voilà, c'était Laetitia. Et je ne me suis même pas présentée au début. Et Liliane.
Voilà.
Et regardez les feuilles voler et tourbillonner.
Ouais.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage. Et puis à retrouver, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté. La liberté, avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi, mon cheval, ma Provence et moi. heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu son paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, qu'elle est belle la liberté, quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, qu'elle est belle la liberté, battue de soleil et de vent, perdue au milieu des étangs. On vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi.
À propos des croyances, je vais tenter d'expliquer comment il m'est très difficile de discuter avec quelqu'un d'athée. Par définition, un athée pense ne croire en rien. En vérité, il est plein de croyances. Et il juge que moi, j'ai plus de croyances que lui, alors que nous avons juste un point de vue différent et des croyances différentes. Mais pour lui, lui seul est dans la raison. Puisque par définition les athées sont contre toute croyance, ils ne peuvent pas se rendre compte qu'ils ont eux aussi des croyances. Par exemple, quand ils ont peur qu'on leur vole leur terre, ou peur de l'étranger, peur d'une couleur de peau autre que la leur, à ce moment, ils ont la croyance qu'à cause d'une culture, d'une couleur de peau différente, l'autre est mauvais, l'autre va leur causer du tort, l'autre est inférieur. Ceci est une croyance. Les athées ont donc autant de croyances que les croyants, ou que n'importe qui. Mais parce qu'ils se disent athées, ils pensent ne pas en avoir. En ça, ils sont dans le déni. En ça, ils se mentent à eux-mêmes. En ça, rien ne change. Parce qu'ils sont enfermés dans leur monde, ils ne savent plus participer à un simple échange d'idées. Parce qu'ils n'acceptent pas leurs propres croyances, ils sont toujours dans le jugement. Eux possèdent la raison, l'unique réalité. Parce que pour eux, ils ne croient en rien. Ce système de pensée ne peut pas être fertile. C'est un enfermement, c'est une forme de déni, de mensonge. La peur est une croyance. À propos du manque, j'ai passé l'été à l'ombre dans ma cuisine avec Columbo. Quand je me sentais seule, j'allumais ma série. Et j'étais presque comme avec papa. Quand je me sens seule ou que je vais mal, je me rappelle ces instants de paix profonde. Quand j'étais avec ma petite sœur ou ma nourrice, j'essaie de revivre ces instants. Parce que ce sentiment de calme, de paix profonde, d'amour vrai, grâce à ce sentiment, tout s'éclaircit autour de moi. J'arrive à vivre l'instant sans attendre quelque chose, sans manque. Je peux mieux cueillir l'instant et j'arrive à choisir ce qui est bon pour moi. Peut-être que tu as déjà éprouvé ce sentiment. Si tu l'as déjà éprouvé, essaie de le garder comme un trésor. Il peut te faire grandir et te sauver la vie. Comme ça, tu peux mieux accepter la colère. parce que tes parents n'ont pas su t'aimer, parce que tu n'as pas su les aimer, parce que tu es passé à côté de toi. Le déni ne guérit pas la colère. Le déni, c'est mentir. Et c'est se mentir à soi-même. Le mensonge paralyse ce monde. Le mensonge est destructeur. C'est du poison dans nos veines. Encore à propos du manque. Pour rester en accord avec le rêve des hommes pour la planète ou l'ordre établi, beaucoup de gens se coupent d'eux-mêmes, de leur sentir vrai, en prenant de la drogue ou en faisant semblant d'être d'accord avec tout. Ils sont dans le déni, ils se mentent à eux-mêmes. Le mensonge paralyse ce monde. Les êtres humains coupés d'eux-mêmes et de leur sentir vrai restent dans une eau tiède ou un non-amour. Ce que je dis là, je peux l'observer chaque jour, en moi et autour de moi. Je n'ai pas besoin d'être folle ou sorcière ou perverse pour m'en apercevoir. Pour moi, on est tous un peu cette princesse au bois qui dort. Quand allons-nous l'accepter ? Quand allons-nous nous réveiller ?